Théologie naturelle par le Père Philippe à Saint-Joseph le 22 mai 85.
Continuons de pénétrer dans ce regard de sagesse. L'avantage de cette étude, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de références historiques, de topiques historiques. Cherchez bien dans la scolastique, vous ne trouverez pas. Et pourtant, je crois que c'est très très important. Mais on trouverait, dans toute une perspective philosophique, de l'existentialisme, de l'ontologisme, des quantités d'éléments qui seraient du reste intéressants de noter. Je ne l'ai pas fait, parce que ça, ça regarderait les topiques historiques, mais ce serait très intéressant d'avoir ça. Alors, faites-le vous-même. Parce que, de fait, hein, si la philosophie est réaliste, c'est la philosophie. Parce que c'est celle qui conduit à la sagesse. Elle doit, par le fait même, rendre compte de toutes les erreurs aussi. C'est-à-dire, elle doit assumer tout ce qui, dans les autres modalités philosophiques, alors je pense ici à l'existentialisme, je pense ici à la phénoménologie ou à l'ontologisme. Parce que l'ontologisme représente un aspect très noble de la philosophie, très grand. C'est pratiquement une théologie, puisqu'il y a confusion entre le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la foi, n'est-ce pas? Pensez tout le temps à Malebranche, hein. Malebranche est très facile à lire, très difficile à comprendre, mais c'est quand même... Oui, c'est le prêtre philosophe. Je ne dis pas qu'il prêche tout le temps, mais c'est un peu comme ça. Alors, c'est très facile à lire, comme une homélie, et très difficile à comprendre. Parce qu'on ne sait pas s'il est au niveau de la foi ou au niveau de la philosophie. Et vous ne le savez jamais très bien. Lui-même ne le sait pas. Alors, vous ne pouvez pas le savoir exactement. Mais c'est intéressant parce qu'au fond, il donne les grandes nostalgies que nous portons en nous. Il donne des grandes nostalgies. Et alors, c'est intéressant de découvrir ces grandes nostalgies et d'essayer de les récupérer. Quand je dis récupérer, comprenez bien, ça ne veut pas dire que nous voulons à tout prix résoudre ces problèmes-là, mais nous voulons essayer de comprendre dans un jugement de sagesse quand la philosophie aboutit au terme de son enquête. Il existe nécessairement un Dieu, un être premier, que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, que cet être premier ne peut être que le Créateur. Et dans la lumière même de cette affirmation, nous pouvons contempler ce que représente l'homme et l'univers. Et c'est pour ça que la dernière fois, nous avions essayé de voir comment, dans cette lumière de sagesse, nous pouvions préciser l'unité de l'univers. L'univers a nécessairement une unité. Si l'univers est une œuvre de sagesse divine. Évidemment, si l'univers est créé par le hasard, il n'y a pas d'unité. Mais dire que l'univers est créé par le hasard, vous avez bien, ça c'est le philosophe qui donne sa langue au chat et qui ne sait pas. Alors, le hasard, personne ne sait ce que c'est. Quand vous dites le hasard, dites « je ne sais pas ». Il vaudrait mieux, serait plus honnête. Nous ne savons pas. Parce que dire « le hasard est cause de l'univers », ça ne veut rien dire. Et ça, au commencement est l'abîme. Comme dit Aristote, les théologiens disent au commencement est l'abîme, au commencement est le non-être, parce qu'ils ne savent pas. Alors ils disent ça. Et c'est très vrai qu'on ne peut pas dire qu'au commencement est le non-être. Ça n'explique rien, le non-être. Donc, si on découvre que l'œuvre de la création est une œuvre de sagesse, que l'être premier, s'il réalise cette action première, cette première réalisation artistique, nécessairement, son œuvre possède une unité. Il ne peut pas être autrement. Toute œuvre qui provient de la sagesse implique une unité. Alors, je vous avais dit cette phrase que nous retrouvons dans l'Ecclésiastique, que les pères de l'Église n'ont cessé de reprendre et que nous pouvons très bien assumer au niveau d'un jugement de sagesse. Toute œuvre de sagesse implique ordre, mesure, poids. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ordre, donc il y a une unité. Et on dit tout de suite ordre, mesure. La mesure est justement ce qu'il y a de premier et qui ordonne. Et poids, c'est l'élan profond de la finalité. Et c'est très beau de mettre les trois, parce que ça montre bien que l'unité de l'univers, nous ne pouvons pas la comprendre du côté de la cause efficiente, mais du côté de la cause finale. Et seule la cause finale peut nous faire comprendre l'unité de l'univers. Et apologétiquement, on cherchera du côté de la cause efficiente. Scientifiquement, on cherchera du côté de la cause efficiente, mais ça n'explique rien du tout. N'est-ce pas ? Expliquer un point de départ en disant un éclatement, ça n'explique rien. Parce que ça, c'est justement un tout petit peu dire « nous ne savons pas ». Alors, on dit « il y a un éclatement ». Oui, cet éclatement, mais d'où vient-il ? Donc, il faut chercher l'unité du côté de la cause finale. Et c'est seulement du côté de la cause finale que nous pouvons découvrir l'unité de l'univers. Cette petite phrase d'Aristote, qui est très belle, qu'il ne faut pas oublier, que nécessairement, tout l'univers est suspendu à la cause première, à l'acte pur. Suspendu. Donc, il prend le point de vue de la cause finale. Parce que c'est bien ce point de vue-là de la cause finale. On est dans un état de dépendance radicale à l'égard de ce que représente la cause première. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important d'y réfléchir, que l'unité de l'univers pour nous, en purifiant le decello d'Aristote, et je dis bien, quand vous voulez avoir un roman philosophique à lire, lisez le Decello d'Aristote et le Timée de Platon. Parce que ce sont deux très grands livres. Alors il faut essayer de comprendre l'intuition profonde qu'il y a dans le Timée de Platon et l'intuition profonde du Decello d'Aristote. Il ne faut pas les lire trop vite, hein. Vous allez lire comme un roman merveilleux qui essaie de comprendre l'unité de notre univers. Et nous devons purifier cette double vision de Platon et d'Aristote pour essayer de découvrir que l'unité de l'univers ne peut se faire que par l'œuvre la plus parfaite de l'univers. Or, l'œuvre la plus parfaite de l'univers, dans nos connaissances, c'est le corps de l'homme. C'est l'œuvre la plus parfaite. Donc, elle est mesure de toutes les autres. Et c'est, je crois, ça qui nous aide à saisir la grandeur de ce que représente le corps de l'homme. Il est l'œuvre par excellence de notre monde physique. Alors évidemment, ce n'est pas notre monde physique qui a produit le corps, c'est bien évident, mais c'est lui qui donne la signification profonde à tout l'univers. Tout l'univers physique est pour le corps de l'homme. Philosophiquement, la finalité du monde physique ne peut être que le corps de l'homme. Parce qu'on ne peut pas parler de martiens ou d'autres choses, nous ne savons pas. Alors là, vous auriez une philosophie des possibles. Mais la réalité que nous saisissons. Ce corps de l'homme, c'est un corps vivant. Alors voilà un nouveau problème. Nous n'avons pas parlé encore de la vie. Nouvelle vision. Ce monde physique, de fait, est ordonné au corps de l'homme. Et le corps de l'homme ne peut être le corps de l'homme qu'en raison de la vie. C'est un corps vivant. Alors, que représente ce point de vue de la vie dans un jugement de sagesse? C'est-à-dire dans la lumière du Créateur. Le Créateur n'est donc pas seulement ce que nous avons vu, pas vous, mais ce que nous avons vu à propos de la création. La création implique ces deux analogies, toujours, le point de vue artistique et le point de vue de la paternité. Ce que les anciens avaient découvert, indépendamment de la révélation, hein, ne dites pas, vous dites ça parce à cause de la révélation, pas du tout. Les néoplatoniciens l'ont dit, indépendamment de la révélation. Ils l'ont dit en philosophe, qu'il faut regarder Dieu toujours, l'être premier, toujours sous ces deux aspects, en tant qu'il est l'intelligence première, intelligence artistique. L'univers est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Mais c'est une œuvre d'amour. Et donc, on regarde Dieu en tant qu'il est celui qui pense l'univers dans sa sagesse, et en tant celui qui est père, parce qu'il communique la vie. Un artiste humain ne peut pas communiquer la vie. Et quand un artiste est en même temps père, il sait très bien qu'il y a une antinomie farouche en lui qu'il n'arrive jamais à résoudre. La paternité, où il est source de vie, mais il est source de vie non pas selon son idée. Les artistes voudraient toujours avoir des enfants selon leurs idées, et ils les ont jamais comme ça. Parce qu'il y a toujours un grand oncle qui est un brigand et qui vous donnera des gènes particulières pour l'arrière-petit dernier. Et alors, ils seront dans l'étonnement. Et c'est vrai, c'est très curieux de voir ça. De voir un artiste qui est père. La paternité est obscure pour l'art. Et l'art, je ne dis pas est obscur pour la paternité, mais il est trop lumineux pour la paternité. L'artiste réalise un chef-d'œuvre qui est le fruit de son idée, de son inspiration, et l'artiste, s'il est père, communique la vie sans rien comprendre. C'est vrai. On n'y comprend rien du tout. Puisque on est déterminé. On n'a pas l'enfant de son idée. Ça n'est pas sorti de la tête. On n'a pas l'enfant de son idée. On a l'enfant que, on dira, qui nous est donné. Les anciens disaient « déterminé ad unum ». Nous, nous disons « déterminé » selon un atavisme très très difficile à préciser, selon une causalité matérielle extrêmement difficile à préciser. On peut préciser certains éléments, mais on ne peut pas préciser tout. Donc ça nous échappe. Et donc, le point de vue de la génération implique toujours une obscurité. La création artistique, au contraire, veut être lumineuse. L'artiste réalise l'œuvre de son idée, plus que de son cœur, vous voyez. Des artistes qui réalisent l'œuvre de leur cœur, c'est jamais génial, c'est curieux. Mais c'est jamais génial, c'est très romantique. C'est terriblement romantique. Alors, ça reste extrêmement marqué pour telle ou telle époque. Le romantisme, c'est ça. Vous savez, c'est très merveilleux pour une époque donnée, mais l'époque suivante ne comprend rien. Parce que c'est l'œuvre du cœur. Tandis que quand c'est l'œuvre de l'intelligence, alors on voit ce qu'on appelle un art classique, c'est-à-dire un art qui dépasse l'époque. Qui dépasse le conditionnement, alors qui est vraiment l'œuvre de la lumière, de l'intelligence. C'est très important pour nous de comprendre que la création ne peut se comprendre qu'à travers ces deux analogies, ces deux comparaisons, le point de vue de l'artiste et le point de vue du Père. Dieu est à la fois l'artiste et il est le Père. Il est l'artiste qui réalise une œuvre matérielle et physique dont on se demande l'ordre, la mesure et le poids. Et en même temps, Dieu est Père parce qu'il est source de vie. Je ne traite pas ici le fameux problème qui est un problème plus apologétique que philosophique. À quel moment la vie est apparue dans notre univers ? C'est très important, c'est intéressant. Mais le philosophe ne s'intéresse pas tellement à cela, parce qu'il sait très bien qu'on ne pourra jamais préciser à quel moment la vie est apparue. Mais l'origine de la vie à partir de la matière. Le passage de la matière à la matière vivante. Très très difficile. Le virus premier qui fait que... Prenez le lit de Monod. Monod dit ça de façon très simple, parce que c'est un livre de vulgarisation, mais un livre quand même qui essaie de préciser à quel moment la vie est apparue. Dans notre monde physique, à quel moment elle est apparue. C'est uniquement l'apparition de la vie. Ce que je cherche maintenant, c'est la finalité dans un jugement de sagesse. Alors, dans l'aspect de la finalité dans un jugement de sagesse, le philosophe peut parler. Quand il s'agit de l'origine, le philosophe est dépendant, et il doit le reconnaître, de toutes les découvertes scientifiques qui se font. Et dans ce domaine-là, les découvertes scientifiques se font de plus en plus précises, et on arrive à préciser, mais on n'arrivera jamais à dire exactement, hein, du côté de la causalité efficiente. Et toutes les apologétiques du début du siècle étaient des apologétiques du côté de la cause efficiente. C'est pour ça qu'elles ne sont plus vraies maintenant. C'est des apologétiques éphémères, comme beaucoup d'apologétiques dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se brûler du côté apologétique. C'est très bien pour le rhéteur. C'est très très bien. Le rhéteur peut avoir un langage apologétique et dire, voilà, voyez bien l'origine de la vie. Avant l'œuf, il faut la poule. Ben oui, c'est évident. Et avant la poule, il faut l'œuf. Et ainsi de suite. Et vous remontez indéfiniment. Alors, qu'est-ce qui est premier ? Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que Dieu a d'abord créé une poule ou est-ce qu'il a d'abord créé un œuf ? Et vous discuterez indéfiniment. Alors, il y aura qui seront pour la poule et d'autres qui seront pour l'œuf. Et vous ne pourrez jamais préciser. Vous êtes dans la cause efficiente. Il n'y a pas de premier dans la cause efficiente, dit le philosophe. C'est très beau, ça. Il n'y a pas de premier dans la cause efficiente, vous pouvez remonter indéfiniment. Vous ne pouvez pas vous situer avant. Vous êtes vous dans la série. Avant que nous apparissions dans notre monde, la vie existait. Ça, on peut dire ça pour nous tous. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez avant et que vous avez vu. Non, parce que vous étiez vous-même un vivant de ce monde physique. Et vous dépendez d'une quantité d'autres vivants. Une quantité. Et alors, si on remonte très loin, on voit qu'on est tous parents. C'est drôle. On est tous parents dans ce point de vue de la vie. Il y a une parenté fondamentale et radicale en nous, c'est que nous dépendons tous de la matière vivante. Il y a eu des ramifications, hein. Il y a eu des bâtards, mais nous dépendons tous de cette causalité, de la cause matérielle vivante. On ne sait pas, on est dedans. C'est, vous voyez, exactement comme pour le monde physique, on est dedans. Si je pouvais regarder le monde physique de l'extérieur, ce serait merveilleux. Je sens que par l'esprit, je dépasse l'univers physique et pas du côté de la coefficiente. Je peux simplement dire, il y a un acte créateur au point de départ. Comment cet acte créateur s'est réalisé? Je n'en sais rien. Comment notre univers est arrivé? Je n'en sais rien. Ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, c'est de regarder la réalité actuelle. Je laisse aux savants de mettre toutes leurs hypothèses et je dis d'avance qu'ils émettront tout le temps des hypothèses et qu'une hypothèse effacera une autre hypothèse et qu'ils en auront tout le temps indéfiniment des hypothèses. C'est très curieux, mais laissons les hypothèses. Le philosophe doit accepter que ces hypothèses, les savants les émettront indéfiniment, mais qu'ils ne pourront jamais dire la vérité dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui nous échappe. La limite, vous voyez, la limite de la connaissance scientifique, hein, la limite, elle se base là, du côté de la cause efficiente. Cause efficiente liée à la cause matérielle. Hein. Et le philosophe, sachant cette limite, se met tout de suite, lui, dans la cause finale. C'est très important de comprendre ça, pour qu'il n'y ait pas de conflit, vous voyez, dans la recherche scientifique et dans la recherche philosophique. Il ne peut pas y avoir de conflit. Si on sait à quel niveau d'intelligibilité on se situe, alors on laisse les savants rechercher indéfiniment et le philosophe, lui, il remonte à la source par la finalité. Mais il sait qu'il ne peut jamais atteindre la source du côté de la cause efficiente et du côté de la cause matérielle. Le lien causalité matérielle et causalité efficiente ne nous donne jamais le premier. Je dis ça, c'est parce que, vous voyez, dans le livre de Monod, c'est ça que Monod fait. Il essaie de découvrir le premier de la cause efficiente du côté de la vie. Papa, il peut découvrir l'élément générique, et c'est ce qu'il fait, l'élément générique le plus simple qu'on retrouve dans tous les vivants biologiques. Mais c'est une œuvre de l'esprit. C'est l'élément générique, fondamental de tous les vivants. Ça ne me dit pas quel est le premier vivant. Ça me dit tout simplement que tous les vivants qui apparaissent dans notre univers sont liés à la matière. Ce sont des vivants qui ont quelque chose de commun. La grande famille des vivants. Et la grande famille des vivants, elle s'étend loin, jusque dans l'herbe. Hein ? C'est l'herbe d'un vivant. Et il y a quelque chose qui m'apparente à l'herbe. C'est pour ça que je peux la manger, sans doute. N'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui m'apparente à l'herbe. Il y a quelque chose qui m'apparente à tout le monde physique. Puisque ma vie, elle apparaît à partir de la matière. Elle jaillit de la matière. Elle est liée à la matière. Et c'est pour ça que j'appelle une matière vivante. Alors qu'il y ait quelque chose de commun, c'est tout à fait normal, ça ne me gêne pas du tout, mais ça ne me dit pas quel est le premier. Parce que le premier générique, c'est une vision de l'intelligence. C'est une vision de l'intelligence. Le genre est une notion universelle. Donc c'est une notion logique. Ce n'est pas une notion physique. Et donc ce n'est pas le réel. C'est une vision de l'intelligence. Alors si vous relisez Monod, ça vaut la peine de temps en temps de le relire parce que c'est une apologétique en sens inverse. Alors c'est intéressant de voir les savants eux-mêmes tomber dans l'apologétique en sens inverse parce qu'ils ont un a priori. Ils veulent une thèse. Alors à ce moment-là, ils tombent dans le point de vue inverse. Ils disent le hasard qui est source de tout. Parce qu'on passe d'un premier générique à un premier physique. Vous voyez l'ontologisme, On passe d'un premier générique qui est de l'ordre de l'intelligibilité à un premier réel existant. Et ça, c'est intéressant à voir, parce qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie, n'est-ce pas ? Pour essayer de comprendre ces erreurs qui se répètent tout le temps. Dans les erreurs, il y a quelques, comme ça, quelques ornières dans lesquelles on retombe indéfiniment. Alors, nous allons nous poser la question, dans cette vision de sagesse, le pourquoi de ce monde matériel à partir de la matière vivante. Et ça, je crois que c'est très important et intéressant. Nous avons vu la finalité du monde physique par le corps de l'homme. Or, ce corps est un corps vivant. Nous devons donc nous poser la question, que représente la vie biologique dans une vision de sagesse ? Pourquoi cette vie biologique dans une vision de sagesse ? Et même, il faut aller encore plus loin, pouvons-nous préciser l'unité de ce monde vivant ? Nous nous sommes posé la question de l'unité du monde physique, on peut se poser la question de l'unité du monde des vivants. Et nous voyons tout de suite que la question est tout autre. La matière a un poids qui dégrade. La vie, au contraire, tend toujours vers quelque chose de plus. Et par le fait même, certains diront l'évolution. On ne parlera jamais de l'évolution de la matière. Jamais. C'est l'inverse. La matière est source de corruptibilité. La matière est source d'usure. La matière est source de fatigue. Donc nécessairement, il y a une espèce de perte d'énergie, ça ne peut pas être autrement. Le poids radical de la matière, le poids radical du monde physique. Si le monde physique n'était qu'un monde physique, il serait inintelligible. Il ne pourrait pas. Ce serait contradictoire. Le monde physique est ordonné à la vie. C'est la vie qui donne une signification au monde physique. Ça, ce serait très intéressant. Parce que ça montrerait les limites d'une physique par rapport à la biologie. Et alors là, nous touchons un problème extrêmement difficile, mais très intéressant au point de vue critique, qu'on doit signaler. Je ne veux pas le traiter, mais on doit le signaler. Le passage du physique au biologique. Vous savez bien les deux attitudes des savants biologiques. Les biologistes aujourd'hui, on les appelle les réductionnistes, ou au contraire ceux qui acceptent que la vie a quelque chose d'unique. Quand je dialogue avec le professeur Marois, on revient toujours à ce problème-là. Et on sent très bien que lui oscille entre les deux. Ça dépend de la dernière conférence qu'il a entendue. Et je comprends très bien, du reste, je comprends très bien, c'est ça qui est intéressant. C'est que, est-ce que la vie, le vivant, peut se ramener au monde physique ? Évidemment, la stabilité dernière du vivant, c'est le monde physique. Le physique a une stabilité plus grande que le vivant. Le vivant a une précarité plus grande que le physique. Le physique peut dire en face du vivant, je suis le fils aîné. J'ai existé avant toi. Et si j'ai existé avant toi, j'ai une stabilité plus grande que toi. Je suis celui sur qui tout se fonde. Et donc c'est le fondement. Alors, du côté génétique, vous voyez, du côté génétique, le physique l'emporte sur le biologique. Mais si je regarde maintenant l'ordre de perfection, je dirais l'inverse. Le vivant apporte au monde physique quelque chose que le monde physique n'explique pas et ne peut pas expliquer. Alors vous avez, voyez, cette question qui au point de vue des savants reste une question qui divise les biologistes. Ça divise les biologistes. C'est très curieux comme la réflexion que me faisait le professeur Marois en me disant du côté de l'Amérique, ils sont réductionnistes et du côté Moscou, ils commencent à découvrir que la vie est irréductible au physique. La dernière fois qu'il a été là-bas, il a été très très frappé. Il a dialogué avec le premier biologiste de Moscou, je ne sais plus c'est qui, il m'a cité le nom. Et ce savant venait de faire une critique de Monod en disant « la vie ne peut pas se ramener au monde matériel, au monde physique ». Il y a quelque chose dans la vie qui est irréductible au monde physique. Et ça sortait de Moscou. C'est intéressant de voir ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'avais demandé de m'envoyer le livre, mais je sais qu'il est très pris. Hein. Il ne me l'a pas envoyé. Mais ça m'aurait beaucoup intéressé de voir la manière dont un savant, dans le contexte dans lequel il est. Et je l'aurai sûrement. Quand je le reverrai, je lui demanderai. Parce que c'est intéressant de voir comment il y a cette réaction à l'intérieur même d'un monde qui normalement conduirait à l'aspect matérialiste. Mais la loyauté d'un savant qui regarde la vie. Il y a dans le vivant quelque chose qui est autre que le monde physique. Au point de vue, donc, au point de vue de l'origine, vous voyez tout de suite le problème. S'il y a quelque chose d'autre, d'où vient ce quelque chose d'autre? D'où ça vient? Et ce quelque chose d'autre, où conduit-il? Alors là, la vision du philosophe dira, la vie est faite pour l'esprit. Alors vous retrouverez nécessairement au point de vue philosophique, ces trois aspects, la matière physique, le niveau de la matière physique, deuxièmement, matière vivante, donc la vie qui apparaît, et troisième niveau, l'esprit. En fait, il y a les trois niveaux que je peux constater philosophiquement et dans lesquels je dois regarder dans une lumière de sagesse. J'ai commencé par le point de vue de la matière, notre univers et l'unité de cet univers physique. Cet univers physique, tout le monde l'accepte. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Maintenant, je passe au vivant. Alors, est-ce que la matière vivante est réductible à la matière physique? Ou est-ce que la matière vivante, donc quand la vie apparaît, il y a quelque chose d'autre? C'est pour ça que je mets le numéro 2. J'ai résolu le problème en mettant le numéro 2. Hein, vous voyez bien. Je considère qu'il y a un autre niveau d'intelligibilité. Alors, je ne le prouve pas ici. C'est la philosophie du vivant qui le prouve. La philosophie du vivant prouve qu'il y a dans l'opération vitale quelque chose d'irréductible au mouvement physique. Pourquoi? Parce que le vivant se meut. Tout simplement, la vieille vision ancienne, il se meut. C'est l'automobile. Hein, il se meut. Il est mobile par lui-même et en lui-même, dans une immanence. Ce fameux problème de l'immanence du vivant. Tandis que le monde physique comme tel n'implique pas cette immanence. Il implique l'extériorité. C'est pour ça que normalement le monde physique comme tel, parce qu'il est dans l'ordre de l'extériorité, va vers l'infiniment grand. Tandis que le monde du vivant, parce qu'il se meut, il va vers l'infiniment petit. C'est très curieux, ces deux dimensions qui vont dans la recherche. L'extérieur. extension du monde physique, c'est évident, il a ce point de vue, il enveloppe tout. Tandis que le vivant, à l'intérieur du monde physique, donne une nouvelle dimension, cette immanence du vivant. Il se meut. Et parce qu'il se meut, il est toujours victorieux du monde physique. Le vivant, dans son opération, est victorieux du monde physique. Il implique une victoire à l'égard de cette usure de la matière. Et le vivant se reprend tout le temps, cette chose très curieuse, l'immanence du vivant. Le vivant implique la fécondité. Il se meut d'une manière telle qu'il est capable de se régénérer. Il se régénère tout le temps, parce qu'il y a cette immanence qui est une immanence radicale, une immanence substantielle. Si l'immanence n'était pas substantielle, il n'y aurait pas la fécondité. Dans le vivant, il y a la fécondité. La parole que nous trouvons dans la Bible, que nous avons parfaitement le droit ici de rappeler au point de vue sagesse philosophique, multipliez-vous. Dès qu'il y a un vivant, multipliez-vous. Le plus petit vivant se multiplie. Il doit être victorieux de l'usure de la matière, et c'est pour ça qu'il se multiplie. Et c'est pour ça que le vivant, en se multipliant dans sa fécondité, est comme une image de l'éternité. Vision philosophique de sagesse, qui est très belle, et qui montre à l'intérieur du monde physique, qui est le monde du temps, parce que le temps, il est au niveau de la matière physique. Il y a là quelque chose de caché de l'éternité. L'éternité, l'image de l'éternité apparaît enveloppée du temps, puisque la fécondité apparaît à partir de la matière, dans l'immanence même du vivant. Cette fécondité qui est une image de l'éternité. La victoire du vivant sur l'extériorité du monde physique. Il faut essayer de saisir ça dans un regard de sagesse. Hein. Cette chose est étonnante. Alors, je me pose la question, pourquoi la matière, dans cette perspective de sagesse, pourquoi cette matière vivante? Pourquoi la vie apparaît-elle à l'intérieur de la matière? Alors qu'elle est irréductible, alors qu'elle a quelque chose d'irréductible. Vous voyez, je me poserai la même question à propos de l'esprit. Comment se fait-il que l'esprit est lié, l'esprit que nous constatons chez nous, n'est-ce pas ? Comment l'esprit est lié au monde biologique ? Et comment l'esprit est victorieux du monde biologique ? À un certain point. Et puis à un certain point, il est dépendant du monde biologique. Et alors ici, le vivant, comment le vivant est-il victorieux du monde physique jusqu'à un certain point? Parce que le vivant meurt. Tous les vivants, vous constatez, ils meurent. Alors à ce moment-là, c'est la victoire du physique sur la vie. Mais il se reproduit avant de mourir. Il donne beaucoup de chapeaux au physique. Très bien, moi je meurs, mais il y en a un autre qui passe derrière. C'est la survie de l'espèce, hein. C'est ce qu'on appelle la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce, c'est ça. Et l'image de l'éternité, c'est dans la survie de l'espèce. C'est l'espèce qui survit à la corruptibilité de l'individu. Et l'individu, et par rapport à la survie de l'espèce, qui est le point de vue de la fécondité, permet donc cette victoire sur le physique. C'est grâce à la fécondité qu'il y a cette victoire sur le monde physique. S'il n'y avait pas de fécondité, il n'y aurait pas de victoire. Or, la fécondité, c'est au niveau justement de l'espèce qui se reproduit et qui continue de survivre. Et c'est en ce sens-là qu'il y a là quelque chose qui fait qu'à l'intérieur du monde physique, qui est un monde temporel, il y a quelque chose d'au-delà du temporel. Alors, les anciens disaient « image de l'éternité ». Bergson dira « la durée ». Le vivant, il dure. C'est vrai, il y a la durée du vivant. Alors que le monde physique ne dure pas. il est dans le temps. Tandis que le vivant dure. Et il dure pleinement au niveau de l'espèce. Parce qu'au niveau de l'individu, il y a la victoire du monde physique, de la corruptibilité. Alors je me pose la question, pourquoi ce point de vue de la matière vivante, la finalité de cela, c'est, je crois, justement, ce point de vue de la fécondité qui manifeste la victoire de la vie sur le monde physique. La fécondité apparaît dans une lumière de sagesse philosophique, et c'est bon d'avoir une lumière de sagesse philosophique au niveau de la fécondité apparaît comme la victoire de la vie sur le monde physique. Victoire partielle, victoire cachée, puisque c'est la victoire de l'espèce et non pas de l'individu. L'individu, c'est la manifestation de la vie. L'espèce, vous ne l'avez jamais vue. Et c'est très vrai, on voit des individus. On ne voit pas l'espèce, c'est une vision de l'esprit, l'espèce. C'est l'intelligence qui dit oui, il y a une continuité. La seule chose que vous voyez, c'est les individus. Or, les individus comme tels ne sont pas victorieux de la matière. Ça nous est toujours un peu écrasé par le monde physique. Vous êtes écrasé par le monde physique, vous êtes dépendant du monde physique, vous êtes. C'est évident, on est dans ce monde physique un peu écrasé. C'est une grosse communauté, vous savez, le monde physique. Hein, avec toutes les galaxies et tout ça, c'est une communauté terrible. Et vous êtes dedans, et vous n'avez pas choisi. Hein. Alors quand vous êtes écrasé par 100 individus, mais regardez le nombre des galaxies, ça vous repose. Hein. C'est extrêmement reposant de dire, mais oui, mais je suis dans ce monde physique énorme, dans ce monde physique qui m'écrase. C'est vrai, le petit individu qui apparaît. Qualitativement, il domine. Quantitativement, il est totalement dominé. C'est peut-être la, vous voyez, la grande manière de dépasser l'étouffement communautaire. Hein. Le problème du tout et de la partie, il commence à vivre, à apparaître là. Le vivant a quelque chose de qualitatif, d'irréductible. Et ce qualitatif apparaît pleinement dans la fécondité. La fécondité me montre la qualité du vivant. Et la qualité propre du vivant qui, comme individu, est battu par la communauté. Toujours, on est tous écrasés par la communauté, un rouleau compresseur, c'est évident, et qui continue. Il dit, va donc, fais tout ce que tu veux, je te possède, je suis un bien avant toi et je continuerai bien après toi. Le monde physique, c'est ça. Il existe avant nous, il continuera après nous. C'est vrai, à notre mort, ça ne changera pas grand-chose aux galaxies. Ça ne changera pas grand-chose à l'équilibre du monde. Et ce monde physique, ben oui, il vous dit ça loyalement, brutalement, va donc, sois un génie, tu mourras, tu disparaîtras, et moi je continuerai. C'est ça l'esprit communautaire, vous voyez. L'esprit communautaire, c'est ça, c'est que de fait la communauté continue, et l'individu, si intelligent qu'il soit, sera écrasé. Quantitativement, mais qualitativement, il redresse. Il dit, ah non, pas du tout. Je te possède. Je suis au-dessus de toi. Et ceci apparaît dans la fécondité. Alors, ça nous permet de comprendre la signification profonde de la matière dans notre monde physique. La matière, c'est pour la fécondité. La signification de la matière, c'est pour la fécondité. C'est pour que un être limité, un vivant individuel, limité, contingent, puisse être source d'un autre vivant. Je crois que dans une vision de sagesse, c'est cela qui donne la finalité à la matière. La matière en elle-même n'a pas de finalité. J'allais presque dire, elle est anti-finalité. Cette parole si extraordinaire de Platon, hein, la matière est cause errante. La matière est ce qui est source de toute limite, de toute corruptibilité. La matière nous met dans le temps. Et la matière permet aussi la victoire sur le temps. Parce que la matière permet, elle dit, elle permet, je ne dis pas qu'elle cause, elle permet la fécondité. C'est par la cause matérielle que la fécondité peut apparaître dans les réalités créées. Le philosophe peut se poser l'hypothèse, puisqu'il sait que l'être premier est esprit. Si le créateur esprit crée d'autres esprits, il ne peut pas communiquer à ces esprits d'être source de vie. Et donc, la création des êtres spirituels implique qu'on ne communique pas la fécondité. La fécondité, c'est être source d'un autre vivant. C'est la matière qui permet que le Créateur réalise d'autres sources de vie. L'esprit, dans sa pureté, manifeste la limpidité et la lumière du Créateur, mais ne peut pas manifester sa fécondité. Ça, c'est très très beau pour nous, vous voyez, c'est très très étonnant ça. Alors, le philosophe qui est un croyant sait que le secret de Dieu, c'est la fécondité de la très sainte Trinité. Alors, le philosophe qui est un croyant s'aperçoit que